Radio Campus Tour, 99.5 FM. Le Dahut. Le Dahut à flanc de culture. Le Dahut se rend dans l'atelier de Julie Troncin, artiste réalisant des pièces de maroquinerie et plus précisément des sacs à main haut de gamme. Son atelier se situe à la Morinerie, à Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire. Elle nous fait découvrir les étapes de création d'un sac.
En forme, il est vraiment sympa, on dirait un petit livre, enfin un beau livre.
Donc la petite cire d'abeille sur les tranches, ce qui permet de donner un côté satiné, parce que là en fait j'ai plaqué la teinte sur toutes les tranches et elle est légèrement mate. Bon, c'est pas dérangeant, mais ce petit côté satiné, en fait, ça va aller avec la couleur du cuir. Voilà, le satiné du cuir, donc je préfère. Et puis en plus, ça rend la tranche imperméable. Et voilà, celui-ci est vraiment terminé. Je vais pouvoir le laisser partir.
Ouais.
Alors, madame la cliente, qu'est-ce que vous pensez de votre sac?
Mais il est très beau.
Comment on choisit un cuir?
C'est vachement au ressenti et au toucher. En fait, j'aime bien toucher la matière, de sentir que le cuir n'est pas sec. Et je mets ma main en dessous et je teste un peu, moi j'appelle ça la rondeur du cuir. Il y a certainement des termes techniques pour les coupeurs et pour tous ceux qui sélectionnent les cuirs. Je trouve que le cuir est rond et je vérifie en fait comment il va froisser. Donc je le froisse pas complètement, autrement ça casse les fibres du cuir. Là c'est un cuir qui est quand même relativement souple, c'est du veau grainé hydrocalf, on appelle ça. Alors, celui-là je l'aime beaucoup parce que dans son processus de tannage, à la fin en fait il est placé dans un rouleau et on vient reproduire un faux grain sur la fleur. Et là on a deux noirs, on a deux nuances de noir. On a un noir un peu plus clair et à la fin ils ont passé un rouleau une fois que le grain a été formé. Donc, on a un noir plus clair et un noir plus foncé, c'est ce qui lui donne vachement de profondeur. Le revers, c'est qu'on voit le moindre défaut dans la matière. Là, à l'atelier, sur du veau, c'est mon cuir de premier choix. On a quasiment une utilisation à 100% de la peau, ce qui est quand même assez agréable en termes de coût, parce qu'on est quand même sur des peaux à entre 98 et 140 euros le mètre carré à peu près. Quand on peut tout utiliser au maximum, c'est quand même pas mal. J'aimerais bien montrer un cuir sec. Ah, j'en ai un là. Et un cuir qui ne l'est pas, ici. Donc là, j'ai pris deux chèvres. Donc ça, c'est un cuir, c'est de la chèvre aniline. Le principe d'une chèvre aniline, c'est que c'est très très peu recouvert. Là, on a un cuir qui est très peu recouvert. Et si tu touches, on a presque le toucher de la peau naturelle. Donc voilà. Ça, c'est des cuirs super intéressants. Celui-ci, c'est un cuir extrêmement sec. D'ailleurs, tu le vois visuellement.
Il fait cartonner, en fait.
Voilà. Donc là, tu vois le côté rond dont je te parlais tout à l'heure. Mais là, tu vois, dès que tu vas le plier un peu, il va marquer, quoi. Tu sens qu'il va casser, quoi. Tu vas pouvoir le froisser facilement. Donc celui-ci, pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore d'intérêt à l'utiliser. Mais étant donné que c'est de la peau, que c'est du cuir, ça vient d'un animal, j'aimerais bien arriver à lui trouver une utilité. Et là, tu entends. Ça, c'est une peau très sèche. Et là, c'est une peau qui a été nourrie. On sent que dans le processus de tannage, elle est. Et on le sent même au toucher, mais aussi, du coup, au son. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi. C'est aussi la chèvre. On va continuer dans le domaine de la chèvre. Donc là, généralement, la chèvre, on l'utilise en doublure. C'est ce qui va permettre d'avoir un rendu esthétique différent pour les pièces et puis vraiment les finir. Là, tu vois, on le voit dans les sacs. Ici, j'ai positionné une chèvre velours.
Donc à l'intérieur.
À l'intérieur, voilà, exactement. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir un rendu où on peut glisser sa main dedans et puis que ce soit un petit peu cocon, quoi, que ce soit tout doux. La chèvre velours, on a poncé la fleur parce que la fleur n'avait pas d'intérêt plus que ça et qu'on voulait le traiter autrement, plutôt avec le velours, donc le côté plutôt chair de la peau, quoi. Pas le plein de fleurs. Donc voilà. Et autrement, dans les chèvres, par exemple, là, on va avoir une chèvre pigmentée. La chèvre pigmentée, on voit vraiment le grain, contrairement à la chèvre lisse qui est comme ça. Donc elle, c'est pareil. Elle est beaucoup plus sèche que les autres. Ça, c'est une chèvre lisse, donc beaucoup plus fine. On voit qu'elle était un peu vernie, celle-ci.
C'est ce qui donne l'aspect brillant, alors.
Ouais. Alors, je sais pas ce que c'est comme vernis. Hein. Enfin, en tout cas, en fin de tannage, et une fois que les couleurs ont été mises, ils ont dû appliquer une finition un peu vernie dessus. Voilà. Puis celui-là, il est vraiment rond, quoi. Voilà. Il va pas froisser, celui-là. Donc ça, c'est des peaux que je sélectionne soit chez des tanneurs qui font de la vente de peaux quasiment au détail. Parce que moi, j'ai une petite production, j'achète quelques peaux par mois, mais sur les doublures un peu plus, mais sur les grandes peaux, c'est un peu compliqué d'acheter 20 peaux à la couleur. Donc il y a certains tanneurs, ils demandent des minimums à la commande, donc on peut pas. Et sinon, le reste, je les achète chez des revendeurs. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. C'est un peu les puces, quoi. Donc on va trouver des couleurs qui vont nous plaire, qui vont pas nous plaire, des matières qui vont nous surprendre. Donc tu me posais la question tout à l'heure, savoir si j'avais déjà une idée de mes couleurs de peau ou pas. J'ai mes couleurs, on va dire, classiques avec le camel, le noir, le bleu marine. Ça, c'est des couleurs que j'achète généralement chez mes tanneurs directement. Et pour toutes les autres couleurs, ça va être au coup de cœur, en fait, selon la couleur que je vais trouver, qui va être sympa. Et puis, généralement, c'est quand même selon l'effet de mode, parce que les revendeurs sont tributaires des couleurs choisies par les grandes maisons, quoi. Cette année, c'était le vert. Donc, moi, j'en ai pas trop eu de vert. Mais là, ça va bientôt être on va avoir du doré, pas mal de doré, d'argenté, là. Donc là, il y en a déjà pas mal chez les tanneurs. Donc, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, donc... Je suis obligée de fonctionner un peu sur les réserves en ce moment parce que j'ai pas trop envie de mettre du doré dans mes cuirs. Enfin, parce que je recherche généralement, c'est même, enfin, mis à part si j'ai un gros coup de cœur sur un cuir, j'aime bien avoir un toucher naturel. Tu vois, même si celui-ci, par exemple, c'est un turquoise, il est très coloré, mais il a un toucher super naturel, quoi. Enfin, il est pas du tout sec, il est, plus c'est de l'agneau, donc ça aide. Ah, si celui-ci est intéressant aussi, quand même. Attends, je vais en sortir un autre. On a du Volis, donc celui-ci est de couleur camel. C'est un des cuirs que j'utilise le plus là sur mes collections. Et il est hyper intéressant parce que celui-ci, il est très peu recouvert et il a un toucher bougie. Ouais, si tu veux toucher, on a l'impression d'avoir une bougie entre les mains. Donc c'est hyper intéressant. Donc il a un petit peu de... Il a son... Quand tu te frottes les doigts, après, t'entends que ça... Ça crisse sous les doigts. Donc, il y a un peu de gras du cuir, c'est normal. On peut s'amuser à façon avec celui-ci, c'est génial. Parce qu'il va brunir dans le temps, selon comment on va le frotter, comment on va le manipuler. Mais en fait, les possibilités sont assez, assez chouettes. Et vu que c'est un cuir qui est pareil, très peu recouvert, donc il n'y a quasiment pas de vernis, tout ça, du coup, on voit vraiment toute la peau, là. Par exemple, là, on est sur un collet, c'est au niveau du cou. Donc là, on voit toutes les rides du cou de la bête. Nous, ça serait pareil pour les dessous de bras, par exemple. Quand on commence à vieillir, on a la peau qui fripe. Bah, là, c'est pareil, quoi. C'est vraiment les rides qui se forment. Lié au mouvement, quoi. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper graphique à travailler, c'est intéressant. Enfin, j'aime bien.
Au niveau des matières premières, ça te coûte combien, en fait, au départ, sans tout le travail que tu mets dessus après?
Bah, par exemple, sur la pochette de soirée là que j'ai vendue à ma cliente qui vient de partir, sur ce modèle-là, il y a déjà... donc, elle m'a versé les arts pour la pochette. Il y avait 260 et quelques, 262 à peu près, de matières premières sur une pochette à 500 et quelques. Là, on a vu que c'est des pièces de très haute gamme, avec un cuir qui est entre 98, celui-ci, là, je crois que c'est 110€ le mètre carré. Le taux du prix de la matière première est vachement important, mais en règle générale, on est à peu près à un tiers du prix. J'arrive à calculer de façon plus juste, à pas être à plus d'un tiers du prix de la pièce. pour les sacs. Autrement, c'est invendable. Et puis, il faut, le but, c'est quand même de faire des belles pièces, se faire plaisir et puis de pouvoir quand même un petit peu manger. Sur un sac comme le Kabak, tu vois là, le bleu, on est à peu près à 120 euros de matière sur l'autre là. Donc, il y a beaucoup plus de cuir, évidemment. Mais c'est doublé avec un Liberty. Donc, le Liberty est quand même un peu moins cher au mètre carré. Il est au mètre linéaire, pardon, il est à 25 euros. Donc là, c'est un peu plus accessible. Les finitions sont pas les mêmes, tout ça. Donc là, oui, j'arrive à être sur les 1/3 à peu près. Si je m'en sors bien, si j'arrive à bien sélectionner les matières, j'arrive encore à diminuer les 1/3, mais c'est vraiment compliqué. Après, je passe plus de temps sur la sélection des matières et sur les finitions, donc au bout du compte, finalement, ça revient à peu près au même.
Et tu vises quelle clientèle ?
De toute façon, en maroquinerie, soit tu fais le choix d'aller que chez des revendeurs et d'avoir des cuirs un tout petit peu moins chers, et auquel cas tu peux arriver à vendre pas trop cher, soit tu fais le choix quand même de faire quelques pièces un peu plus haut de gamme, et là, ma clientèle, j'ai un peu plus... visé sur du haut de gamme. Ouais, au-delà du rapport économique, c'est vrai que j'ai un côté un peu trop perfectionniste, du coup je perds beaucoup de temps sur mes pièces, sur certaines pièces. Donc autant que je sois sur du haut de gamme et vraiment que je m'éclate. En fait, mon père était menuisier ébéniste. Enfin, j'ai toujours vécu dans un secteur artisanal avec ma famille. Ma mère était peintre en décoration de meubles anciens. J'ai toujours baigné là-dedans, donc sur la restauration, sur le fait d'être patient sur une tâche. Je me suis éprouvée dans ma patience, tout ça, dans l'apprentissage, mais du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai du mal à faire autrement, quoi. Puis, ça me fait plaisir, quand j'ai terminé ma pièce et que visuellement, c'est vraiment une satisfaction énorme.
Tu disais aussi qu'il y a l'idée de contenter l'œil et le toucher, en fait, et la main.
Tout à fait, l'idée de contenter au maximum, autant dans les courbes, dans les recherches de courbes, donc essayer de rester le plus sobre possible pour éviter d'en rajouter, parce que des fois, on se dit que plus on va en rajouter sur la pièce et plus ça va l'ornementer, plus il va y avoir de matière. Et finalement, moi, j'essaye de travailler en épurant au maximum pour pas fatiguer l'œil, pour pas qu'on se lasse de la pièce, pour que dans 15 ans, on ait encore envie de la porter, parce que effectivement, le sac doré, il peut être sympa une année, mais j'ai peur que, en tout cas, à mon goût, on s'y retrouve pas dans 15 ans, quoi. Déjà, avoir une peau, c'est quand même issu d'un animal, donc il y a aussi le respect de la bête qui a été tuée pour sa viande au départ, parce que mes cuirs viennent en tout cas de l'agroalimentaire. Vu que c'est une matière durable, autant essayer de la faire durer dans son style. Alors je dis pas que c'est facile, parce que j'ai pas la prétention d'y arriver, mais en tout cas j'essaye d'y tendre, à faire perdurer la pièce, donc quitte à la faire perdurer, autant la concevoir avec le maximum de qualité possible, quoi. Dans une grille de raisonnabilité pour pouvoir en vivre aussi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un maroquinier qui serait pas fier de voir sa pièce dans 15 ans portée sur quelqu'un, parce que déjà c'est un critère comme quoi on a bien fait notre travail. Bah, la pièce plaît toujours. Moi, j'ai hâte de voir dans 15 ans déjà mes pièces, comment elles ont vécu, savoir si j'étais à la hauteur de mes attentes, puis de voir les gens comment ils ont vécu avec et l'histoire qu'ils ont mis dedans, quoi.
Donc une fois qu'on a choisi le cuir, qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe, c'est que il y a l'étape de travail sur le prototype. Donc là, ça c'est déjà fait. Donc on a les gabarits carton. Je vais sortir un gabarit carton avec, enfin tous les gabarits carton d'un modèle, et je vais tout positionner sur la peau. Idéalement, ce que j'essaye de faire, c'est maximiser, enfin avoir un critère entre les défauts de la peau. Donc on regarde tous les défauts de la peau avec la lumière blanche qui est là au niveau du plan de travail. J'étale tout et je regarde comment maximiser l'utilisation de la peau. Bon, alors je regarde, tu vois, l'élasticité du cuir, je teste tous les endroits, je regarde en dessous, tout ça. Je regarde tous les endroits qui sont pas du tout utilisables. Là, par exemple, ici.
Oui, là, le cuir a l'air attaqué ou gratté ou...
Oui, là, on voit que du coup, hop, je mets un petit coup de crayon blanc pour montrer toutes les zones, en fait, qui sont pas du tout exploitables. Là, tu vois, ici, c'est la partie en dessous de la jambe. Donc, c'est des parties, comme pour nos dessous de bras quand on vieillit, qui deviennent très, très souples et qui sont pas du tout utilisables, tu vois. Elles ont trop d'élasticité, le derme et l'épiderme se tiennent pas bien. Enfin, c'est un peu galère, quoi. Et ensuite, du coup, je prends un gabarit. J'ai ma petite valise. Ça, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Là où des fois je vais chiner en brocante différents modèles, parce que j'aime bien m'inspirer de ce qui a déjà été fait en termes de soufflet, en termes de d'enchappes. Les enchappes, on appelle ça au niveau des poignets, en fait c'est la fin des poignets. Du coup, j'ai prototypé un petit peu toutes mes pièces. Donc là, il y a par exemple, on voit le sac Kaba qui est coupé ici avec le fond, la pièce intérieure pour y mettre le top aimant, l'enchappe de lance qui vient là. Et j'ai tous mes modèles qui sont plus ou moins bien rangés de façon aléatoire. Ben voilà, ça sera une poche, par exemple, une poche de portefeuille, un compagnon zippé. Elle vient comme ça, et donc à l'intérieur, il y a une poche zippée. Ça va être les prochains modèles que je vais faire. Donc du coup, on va le faire sur cette peau-là.
Donc le fameux cuir de chèvre rouge sombre.
Celui-ci, je l'utilise généralement pour des doublures de porte-monnaie, justement. Donc je positionne mon gabarit carton. Pour être à l'aise, généralement, je positionne un poids. Donc là, en l'occurrence, c'est un ancien fer à repasser en fonte. Donc du coup, je le positionne bien sur la pièce. Tu vois, ici, je sais que ça va être le fond de la pièce. Donc je peux me permettre, c'est une zone qui va être très peu visible. Je peux me permettre de mettre les défauts à cet endroit-là. Parce que tout ça, en fait, c'est recouvert. Le client ne va pas le voir et autant que le cuir soit utilisé. Donc là, je vais prendre mon outil et je vais pouvoir découper. Donc tu vois, là, j'ai fait une première entaille. Je me méfie toujours un peu avec les parties souples. Parce qu'elles peuvent bouger. Toi, si tu maintiens pas bien en dessous, en fait, ça risque de faire une coupe qui ne sera pas droite. Pour les pièces de petite maroquinerie, du coup, t'intéresse d'être précis. Donc j'essaye de faire des angles. Toi, je termine toujours mes angles avec le couteau à parer. Parce que... Là, pour l'instant, j'avais fait ma coupe au cutter. Donc tu vois, là, j'ai dû m'y reprendre. J'ai un petit... tout ce qui n'est pas coupé correctement du premier coup, après faut les reprendre un petit peu pour avoir une belle tranche. Donc là tu vois, il y a un petit défaut, ça va me faire suer, mais l'avantage c'est que ça risque d'être pris au niveau de la, vu que la poche est prise aux trois angles là, enfin aux trois pans. Le plus important c'est que cette partie là soit propre, le reste c'est peu visible, donc on s'en moque. Donc une fois que tu as coupé toutes tes pièces, il va falloir la préparer. Préparer toutes les pièces à être encollées et cousues. Ensuite, je vais passer au réglage de ma machine. Donc là, ça s'appelle la pareuse électrique, qui a un galet entraîneur ici, donc c'est un peu brillant. C'est la machine un peu la plus bruyante de l'atelier. Donc là, il y a le galet c'est une lame qui tourne, qui est affûtée automatiquement par une pierre d'affûtage à l'intérieur. Et ici, voilà, il y a une pierre d'affûtage. Tu vas la voir, elle va se mettre en route. Et là, je joue sur mon épaisseur, enfin sur ma profondeur de coupe, sur ma hauteur. Donc plus ou moins, j'enlève plus ou moins de matière avec la molette. Et là, sur l'inclinaison. Et en fait, la machine, elle permet aussi de tout aspirer. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai mes bacs de rétention de gros copeaux et de poussière de l'autre côté. Donc moi, ça me permet de rester dans un endroit relativement propre pour mes matières et c'est quand même pratique. Donc là, du coup, en fait, avant de commencer à parer sur la pièce, je prends des chutes pour tester l'épaisseur que je veux vraiment avoir. Voilà, donc là, par exemple, c'est beaucoup trop fin. T'as vu, ça a tout retiré. Voilà, du coup, là, ça y est, on commence à voir la parure qui apparaît. Donc, je vais pouvoir commencer à affûter mon couteau correctement. Là, la pierre, elle affûte directement le couteau qui est rond. Ensuite, je termine mon affûtage avec de la toile émerie pour avoir... une lame vraiment bien affûtée. Tu vois, là, on a presque une parure qu'on appelle papier à cigarette. Donc, c'est presque des parures à zéro. Tu vois presque à travers. Et ça permet donc soit de replier sa matière et d'avoir un travail très fin. Donc, et de pas forcément... on appelle ça un rembord. Donc, ça peut être très joli sur la petite maroquinerie. Soit du coup pour faire des porte-cartes. Donc les porte-cartes, là, vu qu'ils sont très fins, Bah, ça permet de superposer sans avoir des surépaisseurs. Donc là, voilà, il y a cette étape-là. Ensuite, une fois que ta tranche est à ton goût, donc là, on va dire que ça va être un rembord pour cette pièce. Je vais l'encoller avec une colle aqueuse. Voilà, pour attendre. En attendant que la colle sèche, parce que du coup elle doit sécher pour qu'elle fasse contact, je prépare mes fils pour la couture. Je vais prendre un fil pas trop gros, parce que c'est de la petite maroquinerie, donc on va dire qu'on va prendre ce fil-là. En termes de taille, c'est bien, c'est du 800. Donc plus le numéro est important, plus le fil est fin. Donc ça, c'est du fil de lin au chinois. Qu'on utilise en maroquinerie. Donc là, tu vois, c'est un fil qu'on appelle frisé. Tu vois, il tourne, donc il est pas prêt en fait. Il va faire des nœuds. Donc je passe le fil dans un bloc de cire d'abeille naturelle, c'est la cire d'abeille un peu plus classique. Donc voilà, ça me poise bien. Ensuite, on prend un chiffon. Je fais rentrer en fait la cire en la chauffant. Voilà, je prends, du coup, ça rentre la cire dans le fil. Et donc, ça permet au fil d'être déjà... il va pas prendre l'eau, parce que du coup, il y a la cire qui est dedans. Et ça, il a moins de chances de casser pendant la couture-main. Parce que pendant la couture-main, du coup, on force quand même sur les fils pour qu'ils se tiennent bien, quoi. Enfin, je fais une clé, on appelle ça la clé. Donc, je passe dans l'épaisseur du fil, en fait. Je passe le fil, enfin l'aiguille, trois fois. Donc c'est des aiguilles rondes, elles sont pas perçantes. Hein. Elles sont juste là pour faire la couture. Et ensuite, je repasse ça dans le chat et ça me forme une clé. Du coup, le fil va pas bouger. De l'autre côté, pareil. Du coup, en fait, on installe les aiguilles des deux côtés du fil. Et donc, du coup, en attendant, ici, ça a eu le temps d'un peu près sécher. Et donc, je vais pouvoir en coller mes parties. Vu que c'est des parties très fines, en principe, on martèle l'encollage. Et là, en fait, avec mon plioir, donc c'est de l'os, je vais juste maroufler légèrement. Pour avoir... Ensuite, je prends mon compas à pointe sèche et je vais marquer une ligne de couture. Donc là, c'est de la matière un peu souple. Donc pour m'assurer que ça soit à mon goût, généralement je prends la règle. C'est une molette à marquer en fait les points. Donc c'est pour le point cellier. Donc tu peux remarquer en fait les griffes, elles sont légèrement de biais, inclinées. C'est pour avoir en fait un point cellier. Le point cellier, c'est pas un point droit en fait, c'est un point qui est légèrement de travers. Et surtout qui est en couture main. Et donc là, je marque mes points sur la ligne que j'ai marquée. Tac. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant là, tout est préparé. Il me faut mon haleine cellier. Donc ça, c'est un outil qui est losangique, qui est comme un poinçon de forme losangique et qui est légèrement tranchant, enfin qui est même tranchant, qui va me permettre de percer la matière pour faire passer les aiguilles. Donc là, c'est le moment où je vais m'installer sur une chaise. Et donc j'ai pris une grosse pince en bois que je tiens avec mes jambes pour maintenir, en fait ça fait une pince qui va maintenir la pièce de cuir que je viens de marquer avec les points. Donc là, j'ai mon haleine, c'est lié, et donc je perce la matière selon les points que j'ai tracés tout à l'heure. Donc tu vois, là, on a vraiment le point cellier, là. Tu vois le point en biais qui reprend la couture traditionnelle en maroquinerie. Donc une fois que tu as fait ta couture, là, tu sens que, du coup, les fils ressortent beaucoup, donc on va les marteler de façon à ce qu'ils rentrent dans la matière. Donc voilà, là le fil ressort plus du tout. Et en fait l'intérêt de le marteler, ça évite que le fil s'use dans le temps. Pour faire en sorte que... Il y a le moins de possibilités de zones d'usure avec la couture. Donc voilà, ça c'est le point traditionnel. Et je le fais généralement pour des poignets, pour des fonds de sac, enfin des zones qui sont sollicitées par le poids du sac, tout ça, voilà. Donc autrement, il y a ça. Et sinon, maintenant, j'ai quand même une machine qui est vachement bien. Je fais la plupart de mes points à la machine. Et donc c'est une machine triple entraînement qui est... Généralement, c'est la machine de plus ou moins de base pour les maroquiniers, avec le canon. Donc ça, c'est la tête du canon. Hop. Et donc, avec une aiguille, pareil, elle est un peu losangique, celle-ci. Ça imite assez bien le point scellier, sauf qu'elle fait le point dans l'autre sens. L'inclinaison n'est pas la même. C'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs les points. Il y a un point qui penche d'un côté et l'autre de l'autre avec la machine. Donc là, je tire bien les fils, parce que du coup, les fils, autrement, si on les retient pas, en fait, ils sont entraînés dans le point. Enfin, la machine, elle est assez puissante, donc du coup, il faut là retenir le point. Et donc là, c'est un moteur positionneur, donc en fait, le point va s'arrêter dans la matière. Donc là, je fais quelques points sur mon cuir martyr, on va dire, pour vérifier la tension du fil selon la matière que je vais utiliser. Donc là, on se rend compte qu'il y a une tension qui est relativement bonne. On voit que même, il faudrait pas que ce soit plus serré, mais c'est bien si le point est quand même assez en tension. Je serais tentée de le desserrer un petit peu parce que je pense que on va moins voir bien, enfin, on va pas voir bien le point comme j'aimerais qu'on le voit. Tu vois, là, on voit bien la différence. Le point est plus régulier. On voit qu'il y a trop de tension dans le fil. Donc j'ai desserré un petit peu là. J'arrête. Je relève le pied. Là, on voit qu'il n'y a pas de boucle qui. On voit une boucle qui apparaît du fil du dessous. Donc, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de boucle ni du fil du dessous de la canette, ni du fil du dessus en dessous. C'est-à-dire que le point va bien tenir dans le temps et que la boucle est faite à l'intérieur et pas à l'extérieur de la matière. Donc, là, si la tension est légèrement trop importante, tu desserres et tu recommences. On commence ton point. Une fois qu'on a fini la couture, on fait des arrêts de fil. Donc là, je vais pas les faire dans l'immédiat, mais il y a plusieurs ce type d'arrêt de fil qui est fait en maroquinerie. Soit c'est des points doublés à la main, puis après collés. Donc voilà, puis après je remartèle les points pour être sûr que ça rentre bien dans la matière et que ça use pas le fil, quoi. Donc là, je suis obligée d'y aller un peu plus fort parce que du coup le fil est un petit peu plus réfractaire à rentrer dans la matière. Donc voilà, du coup maintenant que c'est martelé, je vais pouvoir continuer mes autres étapes de travail, c'est-à-dire faire le filet sur la tranche, comme on a vu tout à l'heure, mettre de la teinte, la plaquer à chaud, et une fois que chaque étape des pièces du sac sont faites, on peut passer à l'assemblage général et ensuite à la mise en forme. Et voilà, on fait la mise en forme, après la livraison, comme on disait tout à l'heure, de la pièce, donc avec contrôle général de la pièce, s'il y a des taches, s'il y a des points de solidité qui auraient pu m'échapper sur des arrêts de fil, tout ça. Voilà, le nettoyer correctement. Donc le mettre en sac pour éviter qu'il reprenne la poussière, pour que la cliente puisse partir avec. Et puis voilà, la boucle est bouclée.
Pour cette émission, le DAHU remercie Julie Troncin.
Le DAHU vous dit à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.